بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى أما بعد comme on l'a dit aujourd'hui, le premier du mois de Rabi Ayn al-Awwal de l'année 1442 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le septième cours concernant le commentaire de Al-Usul al-Thalatha de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Ici nous terminerons les sortes d'adoration, le chapitre concernant ou la fin du premier fondement, ce qui concerne les sortes d'adoration. Nous nous étions arrêtés à Al-Inaba, qui est une sorte d'adoration qui est traduit approximativement par le repentir ou la demande de repentir. Al-Inaba, c'est une sorte de repentir, donc c'est une sorte de tauba. On a l'habitude d'entendre ce mot at-tauba qui est traduit par le repentir. Al-Inaba, on peut le traduire aussi par le repentir, mais c'est une sorte de repentir, comme le disent les savants, qui est plus haut que le repentir. C'est une plus haute forme de repentir. Car le repentir, afin d'être complet, doit réunir trois conditions. Ces trois conditions qui sont connues, qui sont le fait de délaisser le péché, le délaissement, le fait de regretter ce péché, le regret, et le fait d'avoir l'intention ferme de ne plus revenir à ce péché. Trois conditions. Al-iqla' wal-nadam wal-azm, c'est-à-dire le délaissement, le regret et l'intention, la forte intention de ne plus revenir à ce péché. Et les savants différencient At-Tawba, qui doit réunir pour être complète ces trois conditions, et Al-Inaba, qu'on a traduit ici comme le repentir, mais qui est une sorte spéciale ou particulière de repentir, par le fait que on rajoute à ces trois conditions concernant Al-Inaba une quatrième. C'est le fait de se tourner après cela vers Allah Azza wa Jal par l'adoration, c'est-à-dire de revenir, après avoir réuni ces trois conditions, d'accourir vers l'adoration d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Car une personne peut se repentir de ce péché, mais pas forcément se tourner après cela et accourir vers l'adoration d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Inaba, il y a ce sens en plus, comme le disent les savants. Donc c'est quelque chose qui est plus haut, qui a un plus haut degré que la simple Tawba. Ensuite, Cheikh l'Islam a évoqué Al-Isti'ana, qu'on a traduit par la demande d'aide, ou l'appel à l'aide. Al-Isti'ana. Et donc, Al-Isti'ana, comme on vient de le traduire, c'est la demande d'aide, tout simplement. Talabul Aoun. Et les savants disent que Al-Isti'ana, cette demande d'aide, est de plusieurs sortes. La première de ces sortes est le fait de demander de l'aide à Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Et cette demande d'aide renferme l'avilissement parfait du serviteur pour son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala et le fait de s'en remettre à lui pleinement, et ceci ne sera voué de droit que à Allah Tabaraka wa Ta'ala. La deuxième sorte, c'est le fait de demander de l'aide au serviteur, à la créature, concernant une chose dont il est en capacité de réaliser. Et cette sorte-là, elle est en fonction de la chose à propos de laquelle on demande l'aide. Si on demande de l'aide à la créature concernant une chose qui est légiférée, qui est autorisée, et bien cette demande d'aide sera autorisée. Si on demande de l'aide pour une chose qui est obligatoire, et bien cette demande d'aide deviendra alors obligatoire, etc. Si on demande de l'aide à propos d'une chose qui est interdite, et bien cette chose sera interdite. Cette demande d'aide en elle-même sera interdite. La troisième sorte est la demande d'aide à la créature lorsque cette dernière est vivante, présente, mais elle n'est pas en capacité de réaliser cette chose. Les savants disent que à ce moment-là, ce sera une futilité. Une futilité, comme par exemple le fait qu'une personne demande de l'aide à une autre personne qui est faible pour porter des choses, par exemple. Elle va demander de porter un sac de 40 kilos à son fils de 5 ans. C'est une chose, c'est une futilité. Il n'y a aucun bien dans cela, puisque son fils ne pourra certainement pas porter ce sac. La quatrième est le fait de demander de l'aide aux morts inconditionnellement, ou aux vivants, lorsque cette personne n'est pas en capacité et n'est pas présente. Et ceci est de l'association du shirk. Pourquoi ceci est du shirk? Car la personne qui demandera cette aide à une personne qui sera morte, puisque rappelez-vous dans la troisième, et on va revenir à cela sur la règle, pour mettre en avant la règle de cela, qui va nous servir dans les deux adorations qui suivent, les deux formes d'adoration qui suivent. Dans la sorte de demande d'aide précédente, on a dit le fait de demander, ou dans la deuxième, on a dit de demander de l'aide à une personne qui est vivante, qui est présente et qui a la capacité de réaliser cette chose. Dans la troisième, on a dit à une personne vivante et présente qui n'est pas en capacité. Et si on parle de demander de l'aide à des morts, c'est-à-dire une personne qui n'est pas vivante et bien sûr pas présente et bien sûr pas en capacité de réaliser cette chose, ou à des vivants, lorsque tu demandes à un vivant qui n'est pas présent, et bien ceci sera de l'association. Et les savants disent pourquoi de l'association, car cette personne ne demandera de l'aide à ces personnes-là qui remplissent ces caractéristiques évoquées précédemment que parce qu'il a une croyance que cette personne à qui il demande est capable, il a une capacité qui est une capacité cachée, de réaliser ce qu'il demande. C'est-à-dire une personne qui demande à un mort de l'aider à faire telle ou telle chose, il ne lui demande cette chose-là que parce qu'il a cette croyance en lui-même que ce mort-là a cette capacité de régler telle et telle affaire. Comme cela lorsqu'il demande, comme on l'a cité précédemment, comme bien souvent chez les adeptes des voies soufis, lorsqu'il demande au shir de la tariqa, alors qu'il se trouve à 10 000 km, de l'aider à régler tel et tel problème. Il ne lui demande cela que parce qu'il a, dans sa croyance, la conviction que cette personne peut régler ce problème-là alors qu'il se trouve à des milliers de kilomètres, alors qu'il a comme conviction dans sa croyance que ce dernier l'entend lorsqu'il lui demande de l'aide et qu'il peut régler ses problèmes. Donc cette croyance-là est une croyance polythéiste. Ceci est du shirk. Et ici, cela nous amène à mettre en avant la règle qui est que pour demander de l'aide à quelqu'un, pour que ceci soit légiféré, il faut que cette personne réunisse trois conditions. On les a déjà citées précédemment, on les répète ici. Ces trois conditions sont que cette personne soit vivante, présente et capable. Hay, hadir, qadir. Hay, hadir, qadir. Il faut qu'elle soit vivante, présente et capable. Afin que ceci soit légiféré dans le détail que j'ai donné précédemment, si la personne demande cela à une autre personne et qu'elle lui demande de l'aider dans une chose qui est interdite, par notre législation, cette chose, cette demande d'aide sera elle-même interdite. Là, on parle de ce qui est légiféré lorsque la personne demande de l'aide à une personne qui réunit ces conditions, ces trois conditions citées précédemment, dans une chose qui est légiférée, qui est autorisée, ou recommandée, ou obligatoire. La prochaine sorte d'adoration, elle istira à ça. C'est-à-dire, comme on l'a traduit, l'appel au secours, ou la demande de secours. Elle istira à ça, c'est bien, talabul raouf, c'est-à-dire la demande du secours. Et c'est la demande d'aide, la demande du secours, c'est la demande d'aide dans un moment difficile. On fait la différence entre al-istira'a ou al-istia'ana. Les deux sont une demande d'aide. Mais la demande d'aide qui est al-istira'a est une demande d'aide particulière, car c'est la demande d'aide dans al-raus, ou la demande de al-raus, pardon, c'est cette demande d'aide à un moment difficile. Celle-ci est de différentes sortes qui sont de manière générale les mêmes que celles citées précédemment dans l'Isti'ana. Donc on va résumer en disant que ces sortes-là sont dans le général les mêmes sortes citées précédemment dans l'Isti'ana, et que nous avons citée, ou la règle que nous avons citée précédemment, se retrouve ici aussi dans l'Isti'ana. C'est-à-dire, est-ce qu'il t'est permis de demander le secours à quelqu'un de vivant, présent et capable de te secourir, comme si tu es en train de te noyer, par exemple, tu es tombé à l'eau et tu demandes à une personne qui est encore sur le bateau de te sauver. Est-ce que ceci est interdit ou pas? Cette personne est sur le bateau, il a une bouée dans les mains, tu lui demandes à ce moment-là, ce n'est pas une demande d'aide, c'est une demande de secours, car là, tu es en train de te noyer. Ceci est donc autorisé. Si tu demandes à quelqu'un, et les savants donnent cet exemple-là, tu es en train de te noyer et la personne qui est sur la rive est quelqu'un d'handicapé. Et tu lui demandes de t'aider, c'est-à-dire de venir te secourir. Ceci est, comme on l'a cité précédemment dans l'Isti'ana, c'est une futilité. Cette personne qui est handicapée n'aura pas la capacité de te venir en aide ici. Comme cela, le fait de demander, comme on l'a dit ici, l'Isti'ana à des morts, comme cela à une personne qui n'est pas présente, comme on l'a dit, comme cela se retrouve bien souvent chez les adeptes des voies soufis, etc. Ceci est de l'association. L'adoration qui vient après cela, qui a été citée par Cheikh l'Islam, en fait cette adoration a été citée avant l'Istirata, je l'ai mis ici dans mon explication après, c'est l'Isti'ada. L'Isti'ada, c'est la demande ou la recherche de protection. C'est le fait de demander la protection contre quelque chose de détestable. Et on peut retrouver en général, encore une fois, le même détail que cité précédemment dans l'Isti'ana, dans l'Isti'ana ou l'Isti'ana. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable, qui est présent, qui est vivant et qui est capable de te protéger d'une chose détestable. Ceci est autorisé, de lui demander sa protection, de te mettre sous sa protection. C'est-à-dire le sacrifice. Al-dhabh, c'est le sacrifice légiféré, c'est-à-dire le fait de sacrifier une bête en faisant couler son sang d'une manière précise et détaillée dans notre législation. Il y a bien sûr des conditions pour que ce sacrifice soit légiféré. On les avait rappelés dans un cours, si vous vous rappelez, avant, dans les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah, de l'année 1441, donc cette année, l'année passée, dans un cours concernant le sacrifice du jour de l'Adha. Revenez à cela, car il y avait des détails importants. Revenez à ce cours, car concernant Al-Dhabh, le sacrifice, il y avait des détails importants. De qui est accepté le sacrifice? De quelle manière doit être le sacrifice? Qu'est-ce qui doit être tranché dans la gorge ou sur la partie de la gorge de la bête pour que ce sacrifice soit accepté? Tous ces détails-là, je les ai donnés dans ce cours. Revenez à lui. Ici, on parlera simplement du sacrifice du point de vue de l'adoration. Le sacrifice, il est possible, comme je l'ai rappelé dans ce cours, de le diviser, pardon, en plusieurs catégories, de plusieurs manières différentes. Ici, le détail que je vais donner, c'est un détail qui sera en accord avec le cours, puisque ici, nous étudions l'Aqidah. Ce n'est pas un cours de de fiqh, de jurisprudence, un cours de aqidah. Donc on va le détailler de cette manière-là. On dira que le sacrifice se divise en trois. Le sacrifice qui est légiféré, mashrou', celui qui est licite, autorisé, mubah, et celui qui est interdit, muharram. Nous dirons ici que le premier, al-mashrou', celui qui est légiféré, c'est celui qui est pratiqué comme étant une adoration, c'est-à-dire par lequel, lorsque tu sacrifies, tu vises par cela le fait de grandir celui pour qui tu égorges, et de t'avilir et de te rabaisser pour lui, et de te rapprocher de lui. Donc, le sacrifice qui est une adoration, c'est celui lorsque celui qui sacrifie, celui qui est visé par le fait de grandir, celui pour qui on égorge, de s'avilir et de se rabaisser pour lui, et de se rapprocher de lui. Ceci est le sacrifice qui est une adoration, et qui doit être voué à Allah tabaraka wa ta'ala uniquement. C'est-à-dire que lorsque tu feras cela pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, comme certaines personnes le pratiquent pour des gens qui se trouvent dans des tombeaux, des morts, comme on l'a dit précédemment, on l'a évoqué, des gens comme on les appelle dans certains pays, Siyyed, comme on l'appelle dans certains pays, les pieux, Salihin, etc. Comme on l'a déjà évoqué précédemment parfois, bien souvent à tort, c'est-à-dire le fait de les appeler des pieux, de dire que ces gens qui se trouvent dans ces tombeaux sont des pieux, car bien souvent on se rend compte, comme on l'a évoqué précédemment, qu'ils n'étaient pas pieux dans leur vie. Mais de toute façon, si, même si ces gens-là étaient des pieux, cette chose-là ne serait pas licite pour eux, c'est-à-dire d'égorger pour cette personne-là, en visant à grandir cette personne-là, à s'avilir pour lui et se rapprocher de lui par ce sacrifice. La première sorte que j'ai évoquée, le fait de faire cela en grandissant et en se rapprochant et en s'avilissant pour la personne pour qui on égorge, lorsque ceci est fait pour Allah tabaraka wa ta'ala, ceci est l'adoration et ceci est légiféré. Et lorsqu'on le fait, cette chose-là, pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, ceci est de l'association du shirk et ceci rentre dans la sorte muharram, interdite. La deuxième sorte que j'ai expliquée ici, c'est-à-dire le fait de le faire pour honorer l'invité ou pour faire le walima de mariage ou autre que cela, ceci sera soit obligatoire, soit recommandé, ceci est aussi une sorte légiférée. Puis, la troisième sorte que je vais citer ici, c'est ce qui est mubah, ce qui est licite, c'est le fait de faire le sacrifice afin de profiter de la viande ou pour faire du commerce avec cette viande, c'est-à-dire comme le fait le boucher lorsqu'il va sacrifier une bête, il va commercer, il va vendre des parties de cette bête. Ou lorsque toi tu vas acheter par exemple une bête et tu vas la sacrifier de manière légiférée pour profiter de cette viande, toi et ta famille. Ceci est la manière licite de pratiquer al-dhabh. Et bien sûr, toutes ces manières-là, pour qu'elles soient légiférées, il faut qu'elles soient pratiquées à la manière de notre législation, c'est-à-dire avec les conditions que j'avais rappelées dans le cours que j'ai évoqué précédemment. Déjà que le nom d'Allah Azza wa Jalla soit prononcé sur cette bête que tu vas égorger, et qu'elle soit égorgée de manière légiférée, conforme à notre législation. Ici, une petite parenthèse concernant le hadith qui a été évoqué par Cheikh l'Islam ici. Il évoqua ce hadith qui est rapporté par Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, où il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens de ses paroles, Allah maudit celui-ci qui sacrifie un animal pour autre qu'Allah. Allah maudit. La'an Allah. Qu'est-ce que Al-La'n? Al-La'n, qui est traduit par la malédiction. Ici dans ce hadith, La'an Allahu man dhabaha li ghayrillah. Qu'Allah maudit celui qui sacrifie un animal pour autre qu'Allah. Al-La'n, les savants disent que Al-La'n, lorsque cela vient d'Allah, tabaraka wa ta'ala, comme dans ce hadith, La'an Allah, c'est At-Tard wal-Ib'ad, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jal écarte et éloigne cette personne qui sera maudite. Allah Tabaraka wa Ta'ala écarte et éloigne de sa miséricorde la personne qui sera maudite. Ceci est le sens de la malédiction d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, comme évoqué dans ce hadith. Et lorsque Al-La'n vient du serviteur, de la créature, ceci sera l'injure ou le dua. C'est-à-dire lorsqu'une personne maudit quelqu'un, ce sera soit un dua contre lui, ou soit une injure. Ceci est le sens de la'n concernant le serviteur, et la'n concernant le créateur, tabaraka wa ta'ala. La dernière de ces sortes d'adorations que Cheikh al-Islam a évoqué ici, an-nadhr. An-nadhr qui est traduit communément comme le vœu pieux. Parfois on appelle ça simplement le vœu ou le vœu pieux. An-nadhr est quelque chose qui demande une conférence pour l'expliquer entièrement, de manière détaillée, avec tout ce qu'ont expliqué al-fuqaha, les savants de la jurisprudence concernant ce dernier. Ici, on se contentera de dire que an-nadhr, c'est lorsqu'une personne s'oblige à lui-même de faire une chose, une œuvre. Lorsqu'une personne s'oblige à lui-même de pratiquer une œuvre alors qu'il n'était pas obligé de la faire. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne l'a pas obligé de pratiquer telle et telle œuvre, mais lui se l'oblige à lui-même. Par exemple, lorsqu'une personne dit « Si Allah guérit un tel parmi les membres de ma famille, je jeûnerai pour lui 3 jours. » Allah tabaraka wa ta'ala ne t'a pas obligé de jeûner ces 3 jours. Tu te l'es obligé à toi-même. Tu as fait ce vœu pieux pour Allah Azza wa Jal que si il guérissait cette personne de ta famille, tu lui vouerais cette adoration. Ici, pour résumer ce qui est en rapport avec al-nadhr, nous dirons que al-jumhur, c'est-à-dire la majorité des savants, disent que ce dernier est déconseillé. Makruh. Et certains parmi les gens de science ont dit qu'il était interdit, muharram. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de ce dernier, lorsqu'il interdit de faire ce dernier, il dit qu'il ne vient jamais avec du bien. Il ne vient jamais avec un bien. Et plutôt, il est sorti d'une personne ou on le sort d'une personne qui est avare, baril. C'est-à-dire que cette personne, pour expliquer rapidement ce hadith, cette personne-là a dû attendre afin de faire cet acte d'adoration, de vouer ce vœu pieux à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a comparé à quelqu'un d'avare qui ne peut pas faire de lui-même ses actes d'adoration, mais il attend telle et telle chose afin de les pratiquer et de faire ce vœu pieux pour les pratiquer. Donc, par rapport à ce hadith, l'ensemble ou la majorité des savants ont jugé que an-nadhr était déconseillé, makruh, et certains d'entre eux ont dit qu'il était interdit, muharram. Mais malgré cela, lorsqu'une personne fait ce vœu pieux, voue à Allah tabaraka wa ta'ala de pratiquer une adoration, il lui sera obligatoire de le respecter. Il lui sera obligatoire de le respecter. Ceci d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui voue à Allah tabaraka wa ta'ala un vœu pieux, qu'il obéisse à Allah, c'est-à-dire qu'il respecte ce vœu. Lorsqu'il voue un vœu pieux, un vœu d'adoration à Allah, eh bien qu'il l'adore, qu'il lui obéisse. Et les savants, comme je l'ai dit, al-fuqaha, ont divisé al-nadhr en plusieurs catégories. Et bien sûr, nous rappellerons pour finir ici que celui qui aura voué à Allah tabaraka wa ta'ala un vœu un vœu, un œuvre, je ne dirais pas ici pieux, car celui qui aura voué à Allah Azza wa Jal de faire une chose qui est interdite dans notre législation, comme il est venu aussi dans la suite du hadith, qu'il ne le fasse pas. C'est-à-dire qu'il ne respecte pas ce vœu. Comme le fait de dire, et ceci on le trouve beaucoup chez les gens de la masse qui disent si tu fais, si il se passe cela, wallahi que je ne te parlerai plus jamais. Souvent, c'est pratiqué cela, cette chose est pratiquée d'un époux envers son épouse et vice-versa, comme vous le savez. Et ceci, les savants ont parlé de cela en disant que, en détaillant pour certains, ceci est un serment, et certains l'ont estimé comme étant un nazar, etc. Ceci est expliqué dans les livres de fiqh. Ici, nous terminons le premier fondement de ce livre, Al-Usul al-Salasa, et je vais entamer simplement dans les quelques minutes qui restent le deuxième principe, qui est la connaissance de la religion, l'islam, avec ses preuves. Ma'rifatu din l'islam bil adillah, comme on l'a dit ici, Al-Shir, sa condition, comme dans ce livre, comme dans l'ensemble de ses livres, c'est de rapporter à chaque fois, sur l'ensemble des sujets qu'il aborde, les preuves. Et ceci est la voix des savants de la sunna, le fait que lorsqu'il parle d'un sujet, dans la religion, il ramène ses preuves, des preuves claires. Ces preuves sont des preuves du Coran et de la sunna. Ici, il dit, l'islam signifie, dans le sens approximatif de ces paroles, la soumission à Allah par son unicité, al-tawhid, et la soumission physique à Allah par l'obéissance à ses ordres, et le désaveu du shirk, de l'association et de ses partisans, des partisans de l'association, de ceux qui tombent dans l'association. Et l'islam est divisé en 3 degrés. Cette définition qu'a donnée Cheikh l'islam, apprenez-la, car c'est la définition correcte de l'islam. Si on te dit qu'est-ce que l'islam, et toi qui es musulman depuis 20, 30, 40, 50, 70 ans, tu ne peux pas détailler exactement ce qu'est l'islam. C'est le but de nos assises ici, d'apprendre la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Vous le savez que certaines personnes, lorsque tu lui poses la question quels sont les piliers de l'islam, il ne peut même pas te citer ces 5 piliers, ce qui va venir ici dans ce deuxième fondement qui est la connaissance de la religion de l'islam. Certains, ceci est une réalité. Certains, lorsque tu lui dis quels sont les piliers de l'islam, il ne sait pas s'ils sont au nombre de 3, de 4 ou de 5. Lorsqu'il sait qu'ils sont au nombre de 5, il a du mal, ou peut-être il ne peut pas te les rapporter, ces 5 piliers. Lorsque tu lui demandes quels sont les piliers de la foi, ils sont au nombre de 6, il n'est pas capable de te les citer. Ceci est un grand problème. Ici, ce que nous allons aborder, ce que nous allons étudier dans le cours prochain, est ce qui concerne cela, les piliers de l'islam, ainsi que sa signification, comme évoqué ici. Et ici, Cheikh dit, et l'islam est divisé en 3 degrés, en 3 paliers. Al-islam, qui est traduit par la soumission. Al-iman, qui est la foi. Et Al-Ihsan, qui est traduit par la perfection de la foi ou la bonté. Et chacun de ces degrés a ses piliers, Arkan, chacun de ces paliers. Al-Islam a 5 piliers. La foi, Al-Iman, a 6 piliers. Al-Ihsan, la bonté ou la perfection de la foi, a 1. Ou certains parmi les ulama, comme on va le voir, 2 piliers. Ceci sont des bases, des fondements pour le musulman. Ce sont des choses qu'il est, comme l'a évoqué Cheikh l'Islam dans l'introduction de ce livre, sont des choses qu'il est impératif, qu'il est obligatoire pour tout musulman et musulmane de connaître. C'est-à-dire que l'ignorance de ces points que nous évoquons n'est pas quelque chose qui est permise pour le musulman et la musulmane. Ici donc, la définition de l'islam que nous avons citée est la réalité de notre religion, Al-Islam, c'est la soumission à l'Islam, à Allah. Par quoi? Par Al-Tawhid. Al-Tawhid que nous avons évoqué précédemment, c'est le fait d'unifier Allah Azzawajal par l'adoration. La soumission physique à Allah, Al-Inqiyad, par l'obéissance à ses ordres. Et le désaveu du shirk, de l'association et de ses partisans. Ces trois points, nous les détaillerons un peu plus tard au prochain cours, mais ici, comme vous le voyez, nous avons la soumission par le fait d'unifier Allah Azza wa Jal, se soumettre à Allah Azza wa Jal en l'unifiant par l'adoration. Comme cela se soumettre à lui physiquement, par ses actes d'adoration que nous pratiquons comme la prière de Dhuhr qui arrive. Et l'obéissance à ses ordres. Et le désaveu du shirk. Comment peux-tu te désavouer du shirk, de l'association du polythéisme alors que tu ne le connais même pas? Tu ne connais pas le shirk et c'est une chose, c'est une œuvre de toute une vie. De toute une vie d'une personne comme nous, d'une personne lambda parmi les musulmans, non. Toute une vie d'un prophète, d'un messager envoyé par Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, 23 ans après la révélation dans la grotte de Hira, et il appelait At-Tawhid, l'unicité d'Allah Azzawajal, et il mettait en garde contre le shirk. Jusqu'à ces derniers jours où il disait, il mettait en garde, et il invoquait son Seigneur en disant Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ô Allah, ne fais pas de ma tombe une idole qui sera adorée après moi. C'est-à-dire pendant ces 23 ans, et lui, sallallahu alayhi wa sallam, prophète messager, il appelait à Tawhid, il enseignait le Tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, à ses élèves, à ses adeptes, à ses compagnons, et il mettait en garde contre al-shirk, le polythéisme. Et je terminerai sur cela, le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala, dans son livre, on demande à Allah Azzawajal qu'il fasse de nous des lecteurs de son livre, de jour comme de nuit, le premier ordre qui vient dans son livre, lorsque tu ouvres le Coran, le premier ordre qui vient et la première interdiction est un ordre de, le premier de ses commandements, de ses ordres, est l'ordre de l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, l'ibada, seul et sans associé. Et le premier interdit, la première interdiction qui est venue dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, et l'interdiction du plus grand de ces interdits qui est l'association al-shirk. Ceci dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans surat al-Baqarah. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Dans le sens de ces paroles, les deux premiers versets. Ô hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédé, ainsi atteindriez-vous la piété. Ô hommes, adorez. Le premier ordre, l'ordre de Tawhid. C'est lui qui a fait pour vous la terre, c'est lui qui vous a fait la terre pour lui, et le ciel pour toi, qui précipite la pluie du ciel, et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas des égaux, alors que vous savez tout cela. Ici le premier interdit, ne lui cherchez donc pas des égaux, l'interdit de Ash-Shirk, le polythéisme. Le Coran, du début à la fin, est un appel à cela, l'appel d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala seul et sans associé, et mettre en garde contre eux le fait de lui donner des associés. Wa ilahuna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin.